Bonjour David Mestri.
Bonjour Jean-Luc Rider.
C'est à fin août qu'a eu lieu à Gruyère ce 8e atelier de musique ancienne pour élaborer un violon baroque suisse qu'on apprend à connaître cette semaine dans Musique en mémoire. Oui, un stage de lutherie, mais aussi des expositions, des cours de maître et des concerts, comme on s'en rend bien compte.
Et un concert de démonstration qui était une première mondiale avec cette école de lutherie alémanique dont les instruments ont été copiés récemment, notamment par Andreas Korczak, qu'on a entendu hier. Et aujourd'hui, c'est l'un des fondateurs de cet ensemble Fluidimontes, Christophe Riedo, qui sera à mon micro, qui est chargé de recherche pour le Fonds National Suisse de la musique de ce répertoire pour les violons anciens auprès des Collegia Musica, des archives des villes suisses et des monastères. Une recherche dont il va nous parler.
Tant qu'on s'accorde, ça veut dire qu'on est dans le lieu du concert. Quel est-il ?
C'était l'église Saint-Théodule de Gruyère, où a eu lieu ce concert, d'ailleurs, dans l'heure musicale d'Espace 2, le 29 août dernier. Christophe Riedo, comment est né ce projet double, d'abord de remettre en valeur, de ressusciter une école de lutherie qui est celle de cette Alemannische Schule, et puis aussi de fonder un ensemble pour ce répertoire et ces instruments. Quel est le tout début? Comment ça a commencé?
Eh bien, le tout début, ça a commencé il y a très longtemps, puisque il faut savoir qu'il faut un long travail d'abord. Tout au début, presque personne connaissait quelque chose sur la vie musicale en Suisse du 16e, 17e, 18e siècle. Il y a des recherches qui ont été faites à la fin du 19e siècle, des grandes recherches. Il y en a eu bien sûr d'autres jusqu'à nos jours, mais qui n'ont pas une très 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 grande ampleur. Et c'est donc grâce à un projet du professeur Zoppelli de l'Université de Fribourg, du département de musicologie, que j'ai eu la chance de pouvoir fouiller dans les archives des monastères suisses. Et petit à petit, j'ai eu une idée de la dimension musicale et de l'importance qu'il y a eu justement dans la Confédération du XVIIe et XVIIIe siècle. Et petit à petit, il y a eu ces idées se sont développées et les questions aussi. Et je me suis demandé comment ces manuscrits arrivent en Suisse, puisqu'il n'y a pas vraiment eu des grands compositeurs en Suisse même, mais
et pas des grandes places où on est imprimé de la musique, par exemple, non plus.
Oui, il y a eu des places, peut-être pas les plus grandes du monde, mais il y a toujours eu aussi pas mal...
Des maisons d'édition musicales en Suisse.
Mm-hmm. Ouais. Par exemple, il y a une autre série de ce projet de recherche qui s'appelle « Musique des monastères suisses ». Nous avons une propre série d'éditions. Et le deuxième volume est consacré à un moine cistercien, Johann Evangelist Schreiber, qui avait justement publié de la musique à Fribourg même. Et c'est d'ailleurs la première édition musicale à Fribourg d'un certain éditeur Haut, qui plus tard était aussi parti à Lucerne et qui, par sa famille, a des grandes, vient d'une famille d'édition qui a aussi même des parentés jusqu'en Alsace. Et voilà.
Et puis le lien avec la lutherie, alors c'est venu plus tard, ou bien comment est-ce que vous êtes arrivé à trouver que ces musiques qui sont encore relativement fréquemment jouées en Suisse au siècle baroque ont, d'un autre côté, des artisans luthiers d'une école particulière?
Oui, l'aspect de la lutherie est venu beaucoup plus tard et en parallèle, en fait. Et c'était pas vraiment mon but principal au début, mais par un ami de Bâle qui connaît justement la femme qui a écrit le livre sur la Alemannische Schule, Annette Otterstedt, m'a écrit un email en demandant si j'avais trouvé des informations dans les archives des monastères suisses, si ces monastères effectivement avaient acheté les violons, combien ils avaient payé, dans quelle période ils arrivent, pour avoir plus d'informations, parce que connaître les instruments, on en a 18 aujourd'hui qui se trouvent dans les musées d'instruments en Europe, mais beaucoup aussi à l'étranger, donc à Bruxelles, à Nuremberg, à Berlin, mais aussi à Berne, à Zurich, à Bâle, on peut les voir dans le musée d'instruments, ou bien à Genève. Donc, connaître les instruments, ça c'est une chose, mais savoir quel répertoire qui a été joué avec ces instruments, combien ils coûtaient, parce que quand on les regarde, ils sont très 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 bien faits. C'est du travail très filigrane. Mais on voit des fois aussi que apparemment le luthier avait travaillé assez rapidement aussi, donc probablement comme un gruyère, il avait peu plus de temps que 2 semaines pour construire un violon. Et donc l'aspect économique est aussi très important ou intéressant pour nous. Qui les a achetés? Est-ce que c'est uniquement des monastères, donc des institutions, mais apparemment aussi des collegia musica, donc, et probablement même des personnes privées qui ont fait de la musique dans la famille même. Et c'est donc cette Annette Otterstedt qui m'a fait des demandes à ce propos, et c'est grâce aussi à ces demandes que je me suis mis à intéresser plus particulièrement aussi à cet aspect de la musique dans les monastères.
Et l'ensemble qui a été fondé alors tout récemment, Fluidi Montes, était d'abord destiné à faire revivre aussi ces instruments-là?
Exactement. Notre but, c'est de faire revivre la musique qui a été jouée dans la région de la Suisse d'aujourd'hui, mais aussi au sud de l'Allemagne, avec ces instruments de la Alemannische Schule. C'est donc le but, c'est donc de reconstruire un peu la vie musicale qui a eu chez nous, dans notre pays, et qui fait partie de notre patrimoine culturel. À propos de la musique, il faut dire que quand on va dans les monastères en Suisse, par exemple à Saint-Gall, à Müstair, deux lieux qui ont été acceptés de l'UNESCO comme des bâtiments de patrimoine importants, ou bien à Einsiedeln, qui est aussi très très joli.
Très belle bibliothèque musicale.
Absolument, oui, oui, oui. On voit ces lieux, c'est un art visuel. La musique, par contre, une fois qu'elle a été jouée, elle est disparue pour toujours. C'est ça qui est très dommage de cet art. Et donc, il faut reconstruire cette musique, c'est ça. Donc, il faut d'abord faire des travaux, faire des recherches, savoir quel genre de répertoire, comment, pourquoi, exact, il a été joué. Donc, c'est ça, tout ce travail s'est fait au sein de notre projet de recherche et qui va certainement aussi continuer. Et en même temps, il faut que la musicologie ait des contacts avec des musiciens, la vie pratique, la vie musicale pratique, pour justement faire revivre tout le côté qui a été fait au niveau de la recherche.
Quelques accents du concert donné par l'ensemble Fluidi Montes à Gruyère dans le cadre de cet atelier de musique ancienne. Fluidi Montes, cet ensemble dont l'initiateur est Christophe Riedo. Alors évidemment, David Mestri, vous lui avez demandé comment s'est formé ce groupe de musiciens.
Alors le chœur, ça veut dire on est tous des amis sur Bâle, actifs sur Bâle, dans des orchestres à Bâle. comme Capriccio Basel ou la Cetra ou dans d'autres formations. Et on s'est réunis, nous quatre, parce que j'ai pensé que nous quatre, ça pourrait marcher très bien et que nous quatre, on a tous le même intérêt pour ce genre d'idée qui est à la base un peu particulier.
Un répertoire nouveau à défricher.
Absolument. Au début... Ouais, j'ai aussi senti que nous n'avons pas su de la qualité esthétique de cette musique, car justement, ces parties existent encore, mais ils existent en forme de parties séparées. Ça veut dire qu'il y a une partie du premier violon, une partie de basse continue, un cahier de violon 2, un autre cahier de alto 2 ou alto 1. Et puis après, il faut justement déchiffrer la musique, ce qui n'est pas toujours très évident, mais pour se faire une idée de cette musique, et avant, on n'a aucune idée de la qualité esthétique. Donc c'était ça qui n'était pas facile, parce que d'abord, il fallait aller dans les archives, voir les partitions, photographier, imprimer, une fois joué, une première lecture, et après on voit qu'il y a énormément de fautes aussi dans les recueils, et donc, donc c'est un processus pour avoir une idée, et après, bien sûr, on connaît pas toujours la longueur de la pièce, il faut aller avoir un programme de concert d'une heure ou d'une heure et 15 minutes, et donc, il faut... essayer de trouver une solution.
Donc en partant de ce quatuor à cordes, on peut dire de base, qui est une sorte de consort avec Johannes Frisch, Michel Parti,
Christophe Rodolphe
et vous-même Christophe Riedau.
Oui, voilà, exact.
Et puis après, il faut un continuiste, puisque c'est une musique qui demande une basse continue au début du XVIIe siècle déjà.
Absolument, il faut un continuo. Et là, heureusement, nous avons trouvé Isabelle Torres, qui joue déjà un violone, parce que la question de la basse est toujours un peu... toujours pas vraiment résolue de cette époque, parce que le violoncelle, c'est pas très historique, donc quel genre de basse il y a eu ?
Il n'est pas encore vraiment né, il n'existe pas tellement au nord des Alpes.
Exact, il existe pas vraiment du tout. Il y a soit un grand violoncelle qu'on le trouve en France, ou bien vraiment une très très grande contrebasse. Et donc la grandeur du violoncelle, comment on l'appelle aujourd'hui, il n'existe pas vraiment. Et en plus, il fallait avoir un continuiste qui joue l'harmonie, et nous avons demandé à Marc Meisel, qui est aussi très intéressé par toute approche historique.
Puis vous avez parlé des frontières un peu de cette musique et de cette école alémanique de Lutry. Donc est-ce qu'il y a une frontière nette entre le sud de l'Allemagne et la Suisse au milieu du XVIIe siècle? Est-ce qu'il y a une frontière linguistique aussi? On parle des dialectes un peu semblables dans la région d'Augsbourg ou du sud de l'Allemagne, de Freiburg.
Oui, justement, cette école s'appelle Alemannische Schule, car dans la région de la Suisse et de l'Allemagne du Sud, on appartient à la même groupe linguistique, donc dit Alemannen, et c'est pour ça que cette lutherie, elle s'appelle Alemannische Schule, et là aussi, on voit aussi très bien que à cette période-là, il n'y a pas vraiment des frontières comme on les a aujourd'hui, une douane, et voilà, tout lien culturel est bloqué. Enfin, on l'a pas non plus aujourd'hui, mais à l'époque, pas non plus. Et donc, ces luthiers, ils vont aller au sud de l'Allemagne, vers Waldshut. Il y en a d'autres luthiers, donc, mais c'est à quelques peu de kilomètres de la frontière, donc c'est presque la Suisse encore, où Krauthaler et d'autres vont aller se former, ou bien ils ont des élèves qui se sont
disséminés un peu dans cette région.
Exact.
Vous parlez de Krauthaler, ça c'est un des luthiers dont on connaît le nom et qui est donc vraiment originaire de près de Berne.
Exact, oui. Krauthaler, c'est un luthier assez central de l'Allemannische Schule, il me paraît. Et il a été actif assez près de Berne, tout près de Burgdorf, ça veut dire entre Burgdorf et la Saint-Gine, donc le canton de Fribourg. Et là aussi, on voit très bien qu'il a eu son atelier à un endroit stratégiquement intelligent, puisqu'il est tout près des forêts où il va devoir chercher son bois. Et il est aussi à la frontière d'une région protestante et d'une région catholique. Donc probablement, il a même pu vendre ses instruments pas seulement aux protestants, lui il est protestant, mais aussi vers Fribourg, chez les catholiques.
Ça c'est une frontière alors presque plus importante que la différence entre la Confédération et l'Allemagne, la frontière de la religion au XVIIe siècle.
Oui, je pense que l'appartenance à une des deux confessions est assez importante. Mais il y a quand même eu des échanges, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des échanges du tout. Surtout quand quelqu'un produit un produit tellement bien comme ces violons qui atteignent une qualité très très haute. Donc chacun d'une région catholique qui sait de ces violons d'une haute qualité a aussi un intérêt de les acheter. Et d'ailleurs, à l'église Saint-Maurice à Fribourg en Basse-Ville, on voit un hôtel des frères Spring du début du XVIIe siècle. Là, on voit très bien que les anges jouent de la harpe, une trombone, un cornet à bouquin, même un luth et aussi un violoncelle. La vie musicale à Fribourg au début du XVIIe connaissait justement ces instruments-là. La question qui se pose à nous, c'est d'où ils viennent, ces instruments. Est-ce que c'est Krauthaler qui les a vendus? Mais il y a aussi un autre musicologue, Karl Neff, au début du XXe siècle, qui a écrit un petit article sur la musique en Suisse au XVIIe. Il dit aussi qu'il y a eu un luthier au XVIIe à Fribourg même. Malheureusement, à cette époque-là, il n'y a pas eu des bas de page, donc nous ne savons pas dans quelle archive où il a trouvé cette information, ce qui est très très dommage, parce que maintenant, on pourrait aller plus loin et voir qui est le nom de ce luthier, dans quelle formation il est exactement. Malheureusement, c'est donc une information très intéressante pour nous, mais presque perdue. Elle nous sert presque à rien, donc parce qu'il faut recommencer à fouiller dans les archives.
Et puis pour Krauthaler, alors luthier réputé au-delà donc des frontières régionales, c'est une dynastie aussi comme les dynasties italiennes. Est-ce qu'on a jusque beaucoup plus tard un atelier de lutherie, ou est-ce que justement c'est des luthiers qui devaient à la fois être ébénistes et travailler le bois sous toutes sortes de formes?
Certainement, il n'y a pas une dynastie familiale, mais il y a des relations entre élèves et maîtres, bien sûr. Mais en général, je ne veux pas trop dire là-dessus non plus, parce que effectivement, certainement, on sait des choses, mais la lutherie suisse n'est pas aussi bien étudiée comme une lutherie italienne, ça c'est sûr. Donc, il nous manque certainement beaucoup d'aspects encore de toutes ces relations entre maîtres et élèves et tout ça. Et comme je viens de dire, probablement il y a eu aussi un luthier à Fribourg même dont le nom on ne le connaît pas. Nous avons pas de violon de lui, donc parce que dans les violons même, souvent il y a des étiquettes où on voit qui était le facteur, et bien sûr les étiquettes ne sont pas toujours correctes. Mais souvent, comme dans le cas de Krauthaler, où on voit Oberbalm, après justement Olga Adelmann et Annette Otterstedt ont fouillé, ils ont été à Oberbalm.
Ce sont les auteurs de ce livre sur l'école alémanique de violon.
Exact, oui. C'est eux qui ont commencé les recherches sur les violons alémaniques, et donc ils ont été à Oberbalm pour demander à l'archive là-bas est-ce qu'il y a eu un Hans Krauthaler ou pas quand il a été actif ici et tout ça. Et effectivement, on a pu vérifier tout ça, qu'il y a justement eu ce Krauthaler.
Là, on parle du XVIIe siècle, Christophe Riedo, mais est-ce qu'on sait si un siècle plus tard, ces écoles de lutherie ont continué, si elles ont toujours un certain prestige?
Cette fabrication assez typique pour l'Allemannische Schule a continué jusqu'à la fin du XVIIIe siècle ou même au début du XIXe siècle, il me paraît. Surtout jusqu'au début du XIXe siècle, surtout en Allemagne du Sud. Et un autre aspect assez curieux ou intéressant, c'est que ces violons, qui ont même été construits au XVIIe, on les trouve dans les inventaires des monastères aussi au XVIIIe. Donc une fois un instrument a été construit comme un orgue, on ne le jette pas tout de suite, mais il va être joué pendant une longue période. Mais pour cette lutherie assez particulière de l'Allemannische Schule, il faut dire que justement une fois vers le début du XIXe siècle, elle se perd cette tradition et elle va être justement abandonnée pour d'autres techniques de lutherie.
Et alors c'est tout nouveau que des luthiers d'aujourd'hui comme Andreas Korczak refassent des copies donc spécialement de cette lutherie, c'est les premiers?
Comme le fait Andreas, oui, je pense que c'est un des premiers, mais bien sûr, il y a eu d'autres. Même à Brienz, en Suisse, on les a restaurés, par exemple, les instruments qui se trouvent dans les musées en Suisse. Mais comme le fait Andreas maintenant, donc à une longue période et sur plus ou moins tous les instruments de cette Allemannische Schule et qu'on connaît pour les mesurer, pour les étudier, pour essayer de comprendre le contexte et en collaboration, bien sûr, aussi avec nous, notre projet, avec moi, donc avec tout l'aspect musicologique, ça c'est pour la première fois que ça se fait comme ça.
Et vous avez là un instrument, justement. Quel en a été le luthier? C'est Andreas Korczak qui a fait ce violon-ci?
Oui, exactement. Il me paraît que c'est son premier violon qu'il avait fait. Maintenant, il en a fait un deuxième. Donc, chacun de ces instruments jusqu'à maintenant, ils sont plus ou moins des prototypes. C'est ce que Andreas il dit aussi. Il est toujours très curieux de copier ces instruments et d'essayer de comprendre chaque détail. Pourquoi il a fait ça, comment, en quelle vitesse. Et voilà, j'essaye de jouer un peu les cordes à vide.
Sonorité, si ça résonne bien aussi sur cette voûte de l'Institut de musicologie à Fribourg. Et puis les cordes aussi sont originales et sont spéciales par rapport à d'autres violons baroques.
Oui, notre ensemble a eu un peu l'idée justement d'essayer de reconstruire le plus de choses possibles, le plus d'aspects historiques. Et un intérêt est justement de mettre uniquement des cordes en boyau, donc même pour les cordes graves, ce qui donne une sonorité très particulière, comme celle de la corde sol.
Un peu plus rocailleuse, comme ça.
Oui, exactement.
C'est vrai que les cordes graves, normalement, sont filetées avec du métal, c'est ça, même à l'époque baroque.
Un peu plus tard, vers la fin du XVIIe siècle, on commence à les filer, mais au début, c'était du boyau pur. Et donc, on essaye aussi de faire ça, même si ça paraît au début assez particulier. Mais bon, déjà, le son des violons semble assez particulier, mais on est justement curieux de voir ce que ça donne. Et en plus, on joue les violons contre les poitrines et pas sur l'épaule.
Ça, c'est un travail important, j'imagine, pour un interprète de se déshabituer d'avoir son violon appuyé contre le menton.
Absolument, ça c'est un grand changement. Et puis, oui, on est toujours curieux de voir nos progrès, nos mêmes progrès à ce propos-là. Et voilà, on essaye aussi de jouer des copies des archers de l'époque en les tenant le pouce en dessous des crins et pas
sur les crins et pas
sur la baguette.
Oui.
Oui.
Et ça prend beaucoup de temps, j'imagine, de s'entraîner à changer toutes ces habitudes. Alors que certainement, Christophe Riedo, vous jouez d'un violon plus traditionnel dans d'autres ensembles.
Absolument, oui, bien sûr, ça prend un moment.
Et ça demande beaucoup de souplesse d'esprit, c'est ça aussi. L'ensemble Fluidi Montes a une fluidité intellectuelle aussi pour s'adapter à ces façons de jouer inhabituelles.
Absolument, absolument. Mais bon, j'ai déjà un peu précisé que notre idée au début, on est un peu, si vous voulez, on est peut-être un peu fou, mais on y tient et puis on est curieux et puis on regarde comment les instruments réagissent, comment nous, ça nous va à jouer comme ça. Mais jusqu'à maintenant, ça va assez bien et ces violons, ils vont trouver un son, un propre son, ils vont développer leur son encore. Et donc, c'est un work in progress de la part de nous comme ensemble. Donc, on est curieux à voir ce que ça donne dans le futur.
Ce qui frappe surtout, c'est effectivement la décoration de l'instrument, on l'a dit et redit, avec ses filets. Celui-ci est splendidement décoré de façon colorée. Il y a du vert, des bois différents, là, sous forme de, oui, un peu de décor de meubles de chalet.
Oui, absolument. Justement, le vert de la décoration, il est très intéressant parce que Andreas, quand il a commencé ses recherches, il se demandait, mais comment ce vert? Je ne comprends pas parce que quand on le voit à violon avec une décoration verte, ça fait très bizarre et surtout on pense que ça donne du travail immense pour le luthier et qu'il ne savait pas comment il faisait ce verre. Est-ce que c'était un...
Dans la marqueterie.
Oui. Comment le luthier est arrivé à donner cette couleur verte. Et heureusement, Andreas... Il s'est promené dans les forêts tout près de Oberbalm, justement, où était actif Krauchthaler. Et une fois, il a trouvé une pièce d'arbre qui était justement verte. Et il a dit que quand le bois tombe de l'arbre et qu'il reste mort pendant une certaine période, il chope un virus qui donne justement la couleur verte.
C'est une espèce de moisissure, alors De champignons, non,
c'est pas oui, champignons. Oui, une espèce de champignon, il paraît. Oui, je ne suis pas le grand spécialiste, mais il paraît que c'est un champignon, justement. Et donc, oui, il a compris que c'était le bois qu'il trouvait dans la forêt. Et c'est donc tout ce genre de questions qui montrent qu'il faut justement un projet de recherche de cette part pour comprendre tous ces aspects de la lutherie.
En ce milieu de semaine, David Mestri, on commence de devenir drôlement spécialiste de ce violon des Alpes, de ce violon baroque suisse, du nord des Alpes en tout cas. Hein.
Qui sonne très bien, notamment ces instruments réalisés par Andreas Korczak, dont nous parlait Christophe Riedo, qui est l'un des violonistes de ce concert dont nous allons écouter la deuxième partie, si vous voulez bien, pour conclure cette émission, qui s'ouvrira sur une page manuscrite d'un compositeur suisse du XVIIe siècle, inconnu par ailleurs, Johann Andreas Benz, dont Christophe Riedo nous reparlera demain.
Encore un petit salut à Marie-Claude Cudry pour sa réalisation. Merci à vous, David Mestri, à Isabelle Watson pour son assistance à la production, proposition de Jean-Luc Rider. Et voici donc quelques accents de ce concert présenté le dimanche 29 août dernier par l'ensemble Fluidi Montes.
Avec la prise de son de Blaise Favre et la régie musicale de Gérard Halla.
musique en mémoire. C'est encore mieux l'après-midi, dès 14h sur Espace 2, ou aux nouvelles diffusions à minuit. Cette émission, ce podcast, désormais, comme on dit, où elle se commande au 026 323 24 24. Vous écoutez Espace 2, il est 15h.